Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, Sciacca all'ingresso in area ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Totti! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol di Grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo!
Si gonfia la rete! Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio e Pépé, le podcast 100% football italien. On continue notre bilan de la saison 2021-2022. On vous le répète encore une fois, on vous l'a déjà dit plein de fois si vous avez écouté les épisodes précédents. On fait un épisode plus court que d'habitude pour ce bilan, mais on fait plein de petits épisodes pour chaque grosse équipe de Serie A. Et on terminera avec un feu d'artifice pêle-mêle fourre-tout avec le reste de la Serie A et des autres équipes. Je suis toujours en compagnie de Guillaume Meyer-Pacini. Salut Guillaume.
Salut Johan Crochet, et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs.
On vient de faire la Lazio, on a publié la Lazio, qui dit Rome dit un autre club.
Évidemment.
Comme on l'a dit à la fin de l'épisode sur la Lazio, on passe de l'autre côté du Tibre et on file à Testaccio pour parler de la Roma. Petit rappel sur l'organisation du podcast. On évalue la saison de la Roma par rapport aux objectifs de début de saison, par rapport au contenu, au jeu, à l'apport de l'entraîneur, à certains joueurs. On glisse tout doucement jusqu'à élire le joueur de la saison. On va aussi parler de la meilleure recrue de la saison. Ça peut être le même joueur, sait-on jamais. Et on finit également par...
Le Pagellone.
La note. Et non, on ne va pas refaire ce débat gastronomique sur les desserts de Noël en Italie, mon cher Guillaume.
Ah, mais alors, si les supporters de la Roma n'ont pas écouté celui de la Lazio...
Ah, c'est vrai.
Oui, alors, rapidement, vote Team Pandoro ou Team Panettone. Voilà, sachez-le, c'est le vrai débat qu'on a eu, cher ami Giallo Rossi, dans l'épisode sur la Lazio. Donc voilà, on se demandait ce qui était le meilleur et ce cher Johan fera un sondage auquel vous participerez et auquel, évidemment, vous voterez pour le Pandoro.
Et... ça reste à voir, ça reste à prouver.
Mais le Pagella, en tout cas, c'est la note globale, pour résumer, de la saison qu'on donnera à la Roma.
Alors, mon cher Guillaume, si on repart du point de départ de cette saison 2021-2022, arrivée d'un nouvel entraîneur, José Mourinho, quels étaient les objectifs du club en début de saison? Et là, on peut dire objectif affirmé.
Eh bien, écoute, Johan, l'objectif affirmé, moi, j'aurais dit que c'était le top 4, non?
Bien sûr, c'est ce qu'ils nous ont dit.
Voilà, donc voilà, c'était la Ligue des Champions, se qualifier pour la C1. On peut spoiler, ça n'a pas été atteint, mais c'est vrai que quand tu récupères, on va dire, un entraîneur comme José Mourinho, surtout en Italie, où la trace qu'il avait laissée en quittant l'Inter en 2010 avec le fameux triplette, quand tu recrutes un tel entraîneur, même s'il est sur une pente descendante, dirons-nous, voilà, les ambitions étaient grandes. Les Friedkin, mon cher Johan, ont dépensé sur le mercato aussi, parce que c'était le club italien qui a le plus dépensé à l'été 2021. Donc voilà, en plus des ambitions affirmées, il y a eu un mercato qui a été dépensier, avec Mourinho aussi qu'on prend encore dedans, hein, parce que Mourinho a un gros salaire. La propriété Friedkin a fait des gros efforts pour l'attirer. Donc voilà, l'été 2021 de la Roma a été mouvementé, a été dépensier. Objectif, Ligue des Champions.
Et d'ailleurs, tu fais bien de dire que José Mourinho fait partie des dépenses des propriétaires. Je te dis sincèrement, je ne pensais pas qu'on verrait à Rome un entraîneur payé à ce niveau-là.
Je pense que les supporters non plus.
Parce que Mourinho va toucher sur ses 3 ans de contrat. On sait qu'il y a eu un petit montage avec Tottenham qui prenait une partie cette saison... etc. Mais c'est 7,5 millions net annuels. Il faut se rendre compte de ce que c'est pour un club comme la Roma. Très sincèrement, je ne pensais pas qu'on verrait ça. Bref, parenthèse refermée.
Mais c'est l'entraîneur le mieux payé de l'histoire de la Roma.
Oh, bah, sans problème. Voilà, mais il n'y a personne qui lui arrive à la cheville.
Bien sûr.
Ça n'a rien à voir.
Pour contextualiser, c'est dingue quand même.
Ah, exactement.
Et c'est pour ça que d'ailleurs que l'arrivée de Mourinho a créé vraiment une effervescence assez dingue à Rome. Parce que voilà, c'est justement Mourinho, c'est un entraîneur qui a un énorme palmarès, ça reste une image, José Mourinho. Donc voilà, on a rapidement vu les fresques dans la ville. Il y a vraiment eu quand même une euphorie énorme autour de cette arrivée-là pour l'entraîneur, le mieux payé de l'histoire du club.
Comme pour les autres bilans, mon cher Guillaume, avant de passer à la Serie A, on regarde rapidement du côté des autres compétitions. Et sans spoiler la note finale qu'on attribuera à la Roma, à la saison de la Roma, c'est évidemment là que la Roma sauve sa saison. Je ne parle pas de la Coupe d'Italie, hein, puisqu'il y a eu une défaite en quart de finale contre l'Inter, où très sincèrement, les Giallorossi n'ont pas existé, mais pas une minute. Il faut par contre aller regarder du côté de la Conference League, que la Roma a remporté. Pourtant, Guillaume, est-ce que tu y croyais vraiment après la claque 6-1 à Bodø au mois d'octobre?
Non.
Pas vraiment. La Roma a remporté cette Conference League en battant le Feyenoord 1-0 en finale, après avoir éliminé Leicester en demi-finale, et en plus avoir pris sa revanche contre ces mêmes Norvégiens de Bodø/Glimt en quart. Et c'est quand même, et c'est pas rien, le premier trophée européen pour la Roma, et c'est quand même, et c'est pas rien, le premier trophée européen pour l'Italie, depuis 12 ans, mon cher Guillaume.
Et depuis 12 ans,
et un certain.
Et José Mourinho. Là, à croire qu'on a besoin, tu sais, à Eurosport, ils sont beaucoup moqués de moi en disant, mais en fait, vous avez toujours besoin de Mourinho en Italie pour vous ramener les trophées européens.
C'est pas
fait. Il a dit, c'est vrai, c'est un peu ça. En même temps, c'est véridique, c'est un fait. On a attendu 12 ans pour avoir un trophée européen. C'était déjà avec le Special One. Mais c'est vrai que pour revenir au terrain, c'est ce qui sauve clairement. La saison de la Roma, parce qu'on va venir après à la Serie A, mais il ne faut pas pour moi sous-estimer cette Conference League. Et d'ailleurs, les festivités pour moi à Rome l'ont prouvé. Au-delà du fait que c'est un trophée très important pour l'histoire de la Roma, parce que la Roma, tu le sais, Johan, n'est pas non plus un club qui a amassé beaucoup de trophées, encore moins ceux européens. Et c'est vrai que ce parcours, justement, on a senti que. Il y a toujours eu cette euphorie qui a porté le club. Alors, c'est une euphorie, d'ailleurs, qu'on a retrouvée constamment au cours de la saison. Les supporters, vraiment, ont été pour moi le plus de la Roma parce qu'ils n'ont jamais lâché, ils ont toujours soutenu l'équipe, contrairement aux saisons précédentes où à un certain moment quand même il y avait une coupure entre les ultras, les supporters et cette équipe-là. Mais c'est vrai que en Conference League, on a senti que l'euphorie est montée petit à petit. Il y a eu cette demi-finale face à Leicester, Johan, où je dois t'avouer, j'étais pas hyper optimiste non plus. Et pour moi, c'était vraiment peut-être l'étape vraiment la plus compliquée à franchir, hein, parce qu'on sait que voilà, la première ligue, l'intensité, c'est jamais très simple pour nos clubs italiens. Et ils l'ont passé. Et une fois arrivé en finale, évidemment que quand un entraîneur quand même comme José Mourinho qui les a toutes gagnées, ce qui est quand même une stat assez incroyable, toujours d'ailleurs en menant 1-0 à la pause. Là, je partais pour le coup assez confiant et j'étais très content que la Roma s'impose. Mais cette conférence league pour la Roma, il faut vraiment se rendre compte pour ceux qui ne suivent pas forcément le club, c'est un trophée. Je pense que tu seras d'accord qui rentre dans l'histoire. Et moi, j'ai lu quand même le lendemain de cette finale dans le Messaggero, je crois, donc qui est un quotidien généraliste de Rome, qui a quand même utilisé l'adjectif légendaire pour qualifier le trophée et pour qualifier José Mourinho.
Oui, oui, et puis de toute façon, il faut bien commencer quelque part en fait. Personne ne dira que la Conference League, ça a la même valeur que la Ligue des Champions. Mais à la fois la Roma et à la fois l'Italie, ces deux entités, on va les présenter comme ça, ne sont plus aujourd'hui en position de négliger le plus petit trophée européen. Parce que ça fait bien trop longtemps. Alors, du côté de la Roma, c'était jamais, donc c'est effectivement très longtemps. Mais même du côté de l'Italie, de manière générale, tu n'as pas gagné pendant 12 ans, eh bien tu prends ce qu'on te donne. En fait, c'est ça, c'est simple. Donc effectivement, ça reste la plus petite des trois compétitions européennes, ça, il n'y a absolument aucun débat. Par contre, ça déclenche des vagues d'enthousiasme, et ça devrait donner des idées à la Fiorentina la saison prochaine, je l'espère sincèrement. Et même en Europa League, peut-être que ce qu'on a vu avec la Roma là en Conference League, ça peut aussi être un déclic pour d'autres clubs qui vont jouer l'Europa League dans les années à venir. Dans l'immédiat, c'est encore là, enfin, ce sera la Lazio et la Roma. Mais ces deux clubs-là, ok, jouer le jeudi soir, c'est compliqué parce qu'ensuite tu joues forcément le dimanche soir et c'est toujours difficile. Tu connais les résultats des autres. Il y a plein d'aspects qui font que ça peut être compliqué. Néanmoins, qu'est-ce qui était le mieux aujourd'hui ? Moi, je prends toujours cet exemple-là quand on me parle de... Alors, avant, c'était de l'Europa League. Là, c'est de la Conference League. Donc, c'est encore un niveau en dessous. Mais même avec ça, je prends toujours cet exemple, Guillaume.
Oui, non, mais je suis totalement d'accord.
La Roma, Guillaume, les supporters de la Roma, ils auraient préféré finir dans les 4 premiers, ce qui était l'objectif du club, et ne rien faire de particulier sur la scène européenne. Ou est-ce qu'ils ont préféré finir sixième, donc ne pas être dans les objectifs de début de saison et ne pas être dans la capacité de jouer la plus belle compétition européenne la saison prochaine, mais de gagner un trophée européen?
Écoute, déjà, de 1, je pense que ça vaut un sondage, en plus du sondage Panettone. Et de 2, non, je pense que c'est la deuxième option, parce que quand on voit l'émotion, l'euphorie que ça a suscité dans les rues de Rome, où vraiment ça a été une marée humaine. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis qui sont supporters de la Roma en France qui sont partis exprès pour ce match à Rome parce que Tirana, le stade, était très petit. Donc, c'est pour dire quand même ce que ça représentait déjà pour le club et aussi, évidemment, pour les supporters. Et surtout, tu sais, Johan, encore une fois, en Ligue Europa cette saison ou même les saisons précédentes, on a toujours ce débat avec les clubs qui sont engagés, et je dis bien en Ligue Europa, sur quel compo mettre. Est-ce qu'on doit privilégier la Serie A parce que ça arrive très vite et que l'objectif, c'est le top 4 ou une qualification en Europe. Et ça reste un débat quand même qu'on a encore aujourd'hui. Et quand tu vois ce que ça provoque, autant la jouer à fond. Parce que moi, on a eu l'Inter récemment en finale de Ligue Europa. Je suis certain que si l'Inter avait gagné la Ligue Europa, évidemment que tu n'aurais pas eu l'euphorie qu'il y avait eu à l'époque du Mourinho, parce qu'il y avait eu un triplé, tu avais eu avec les champions, donc c'était autre chose. Tu n'aurais peut-être pas eu, et j'ai envie de te dire, l'euphorie qu'il y a eu à Rome, parce que les palmarès des deux clubs sont différents. Mais si l'Inter avait gagné l'Europa League, tu aurais eu quand même une certaine émotion à Milan, avec l'Inter qui revient avec le trophée. Ça reste une compétition européenne, ça reste la C3, donc... Tu peux pas aujourd'hui, quand tu es un club italien, négliger n'importe quelle coupe. La Ligue des Champions, j'en parle pas parce que c'est évident. Et encore, Johan, on a parlé dans le podcast Inter, mais quand Inzaghi a fait son choix, ses choix à Liverpool, moi, ça m'a donné quelques, on va dire, quelques frissons, pas dans le bon sens.
Des boutons,
voilà,
ça t'a donné.
Voilà, ça m'a donné des boutons. Mais pour moi, quand tu es un club italien aujourd'hui, tu dois toujours jouer à fond une compétition européenne, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, quand tu as la Conference League et quand on voit ce que ça a provoqué à Rome, je trouve ça génial. Et on va parler du terrain. Et je trouve aussi, Johan, que dans le processus, et tu parleras du jeu, mais dans le processus d'évolution dans les mentalités que veut apporter Mourinho pour certains joueurs de la Roma et pour le vestiaire plus globalement, cette victoire, pour moi, est vraiment le point d'orgue de ce qu'il a voulu donner ou du moins inculquer cette saison. On l'a vu, il l'a fait publiquement, notamment après la défaite lourde à Bodø/Glimt. Mais gagner ce trophée-là pour plusieurs joueurs, et que ce soit des Lorenzo Pellegrini ou des Kalsdorp ou d'autres, ou des Calafiori ou n'importe quel joueur jeune, plus âgé, un vestiaire comme la Rome a gagné ce trophée-là, pour moi, pour la mentalité et pour la suite, je trouve ça hyper important dans ce que voulait apporter Mourinho.
Je suis tout à fait d'accord, et c'est évidemment une donnée à prendre en compte. Si on passe au jeu, et en allant un petit peu aussi sur la Serie A, mon cher Guillaume, ça avait bien démarré lors des 5 premières semaines de compétition, mais on a aussi très vite senti, c'est lié aussi à ce qui s'est passé à Bodø/Glimt, évidemment, où Mourinho a une communication agressive très rapide dans la saison, qui a eu des conséquences, notamment sur des joueurs qui jouent moins, où tu les as clairement désignés comme les responsables de l'échec, en utilisant des mots comme, ou des expressions, ou des arguments comme « les Norvégiens sont meilleurs que vous », tout en sachant que tu aurais besoin d'eux au cours de la saison. Il y a des joueurs qui ont eu du mal à digérer ça. L'environnement, de manière générale, a eu du mal à digérer ça. Et on a senti que l'équipe se recroquevillait un petit peu sur des valeurs plus traditionnelles, mourinhesques. C'est-à-dire que l'équipe jouait de moins en moins, plus les semaines passaient. Je suis tout au long de la saison quelques indicateurs pour pas mal d'équipes, dans les stats avancées, sur la possession, sur le pressing, sur la hauteur de bloc, sur les occasions créées, etc. Et c'est marrant parce que à Rome, plus les semaines et les mois passaient, plus les indicateurs baissaient. La Roma avait de moins en moins souvent le ballon. La Roma pressait de moins en moins haut sur le terrain, c'est-à-dire que son pressing se déclenchait plus bas, elle pressait moins haut, son bloc était moins haut. Donc, on a eu ce changement entre début de saison où il y a un peu l'euphorie, arrivée de Mourinho, c'est génial, ah bah Mourinho il a changé, Mourinho il a évolué, etc. Tout le monde revient au stade, etc. Ça a été une constante qui est restée tout le monde au stade. Mais on a aussi vu assez rapidement que le côté plus fermé de Mourinho est aussi revenu assez rapidement dans l'esprit de l'entraîneur et aussi surtout dans les pieds des joueurs.
Mais mine de rien, tu vois, malgré les complications qu'il a eues sur le terrain ou dans le jeu, et c'est vrai que, voilà, si on parle vraiment purement et uniquement de la série, il y a quand même eu des périodes assez compliquées. Et dans le contenu, vraiment, on a retrouvé des choses qu'on voyait de Mourinho assez récentes et qui étaient très décevantes, même si tu n'as pas le meilleur effectif de Serie A. On parlera peut-être du mercato après, Johan, qui avait été fait, et de certaines recrues qui étaient quand même en droit d'attendre à mieux de tout ça. Et tu l'as dit en début de podcast, s'il y avait un peu la Coupe d'Europe et la Conference League, la note finale pour moi et pour toi aurait été différente. Mais moi, quelque chose que je veux bien reconnaître à Mourinho, c'est que déjà, il a réussi à tenir ce fameux ambiente romain, donc l'environnement romain compact, ce qui n'est pas toujours évident. Et c'est ce qui pollue souvent une équipe de la Roma ou un entraîneur. Et lui était très malin parce que c'est un habile communicant et que ce soit dans ses gestes. Moi, tu vois, je me souviendrai toujours l'après-derby aller où la Roma perd 3-0 et il voit les caméras, il va tout de suite regrouper ses joueurs, il va sous la soude. Et il a toujours joué ce côté-là, même en conférence de presse, parce qu'il connaît par cœur, il sait comment ça marche, surtout à Rome. Il a parfaitement compris où il mettait les pieds. Et quand on voit comment le public romain a répondu tout au long de la saison, même à la fin, quand il y a eu ce Roma-Venise, c'est terminé 1-1, c'était un match assez dingue et à sens unique. Le stade était plein Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui était possible, du moins, grâce à Mourinho. Et sans lui, je ne suis pas certain qu'au vu des résultats et de certains matchs, l'environnement serait aussi compact. Alors, Johan, je pense que tu es d'accord. Si il y avait un autre entraîneur sur le banc à certains moments de la saison, avec certaines prestations et certains résultats, moi, je ne suis pas certain que les médias romains et que les supporters auraient été aussi cléments qu'ils ne l'ont été.
Ça, j'en suis persuadé comme toi. Évidemment que ça aide beaucoup dans cette gestion de, j'allais dire, de crise. Bon, je sais pas si crise est vraiment le mot, parce que tu sais que au final, j'ai regardé un petit peu en détail, et puis j'ai repris tous les matchs de la saison, tu sais, en forme de liste.
Oui.
Et puis tu marques victoire, défaite, nul, victoire, défaite, nul, etc. Malgré tout ce qu'on a dit et qu'on maintient évidemment sur la saison décevante en championnat de la Roma, tu sais que si j'ajoute même la Conference League et la Coupe d'Italie, donc si on prend l'entièreté de la saison de la Roma, il n'y a jamais eu plus de 2 défaites d'affilée.
Alors qu'on pourrait croire.
Alors qu'on pourrait le croire.
Alors qu'on pourrait le croire. Mais disons qu'il y a eu peut-être certaines victoires aussi. Tu vois, le contenu n'avait pas été au rendez-vous.
Bien sûr.
Alors, au niveau des prestations, vraiment, parfois, je me suis dit, mais en fait, Mourinho est quand même. C'est évidemment un grand mérite d'avoir gagné la Conference League et c'est ce qui sauve cette saison. Mais grâce à ça, tu vois, il arrive quand même à faire passer l'idée que sa saison est totalement réussie, alors qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le jeu et sur certaines périodes de la saison où. Moi, tu vois, tu parlais des déclarations. Moi, là, par exemple, je me souviens qu'il avait utilisé aussi le mot « enfant » à un moment pour parler de ses joueurs parce que bah, pour lui, ils n'étaient pas à la hauteur et il a quand même été très dur, parfois publiquement, dans ses propos. Et c'est vrai que là, j'ai retrouvé le vieux Mourinho qui, pour réveiller… Et d'ailleurs, c'était le vieux Mourinho aussi parce que, tu sais, il s'est inventé des ennemis invisibles. Et ça, il adore faire ça.
traditionnel, ça.
Et il nous l'a refait cette saison. Alors, il y a eu des erreurs arbitrales avec la Roma là-dessus. Il y a eu même plusieurs. On est tous d'accord, avec d'autres clubs aussi. Mais c'est vrai qu'il a réussi à faire passer ce message à un moment que les arbitres étaient contre la Roma. Et combien de fois on a vu les quotidiens romains et Johan aller dans cette direction pour justement aller derrière Mourinho. Et là-dessus, ça a été vraiment le guide de ses troupes, comme à l'époque romaine. Il était vraiment devant et tout le monde l'a suivi sans jamais désobéir à ça. Et ça peut être considéré comme une force si on regarde la saison de la Roma.
Parce qu'il est très malin, Mourinho. Et qu'il a,
tellement.
Il a vite compris quel était l'état d'esprit à Rome vis-à-vis du pouvoir footballistique italien. On sait que le pouvoir footballistique est détenu par les plus grands clubs, ce qui est de manière logique, hein, c'est le cas dans tous les championnats. Hein. Les influences des plus grands clubs sur le pouvoir économique, sur le pouvoir sportif sont évidentes, quel que soit le club, quel que soit le pays, pardon. Et il a très vite compris que à Rome, il y a cette sentence à chaque fois qui tombe dès qu'il y a une défaite contre un gros ou dès qu'il y a une mauvaise performance contre un gros ou une mauvaise saison, c'est de toute façon, on, avec l'utilisation du pronom on voulait pas que la Roma fasse mieux. Ou on voulait pas que la Roma gagne ce match. Ou il faut tout faire pour que X ou Y, donc en gros c'est soit Inter, soit Juve, soit Milan, termine devant la Roma. Et ça, il l'a très vite compris. Il est très malin en termes de communication, il est ultra intelligent. Et il a réussi à fédérer aussi les supporters comme ça, avec le club, avec les joueurs, etc. Et il a aussi réussi à, et ça c'est encore plus malin, à détourner parfois l'attention de résultats décevants où on finalement n'en parlait pas. On parlait de quoi ? De la sortie de Mourinho en après-match.
Exactement. Et tu vois, je relisais les propos qu'il a vus, c'était après Roma-Juve. Tu te souviens de ce Roma-Juve, le 4-3 incroyable, où il dit, tu vois, par exemple, qu'avec une équipe, je cite, avec une équipe à la mentalité forte, le problème du 3-2 n'existe pas. Enfin, tu vois, il a quand même eu des phrases assez rudes pour son vestiaire et l'aspect émotionnel quand on a parlé aussi dans le podcast Naples qu'il peut y avoir à Rome. Il a quand même beaucoup travaillé dessus cette saison en essayant de recadrer un peu les choses. Et quand je parlais de la mentalité tout à l'heure, justement, lui, dans ses déclarations après Romano, il parle de cette mentalité, je cite, gagnante. et qu'il a réussi quand même à inculquer. Et c'est vrai que cette victoire de la conférence va dans ce sens. Mais pour moi, voilà, l'adjectif qui va vraiment bien à Mourinho, c'est malin, parce qu'il est quand même arrivé, Johan, à faire passer l'idée d'une saison parfaitement réussie,
ouais,
alors qu'elle ne l'est quand même pas. Alors, la conférence League,
c'est pas parfaite, non, c'est sûr.
Elle est pas, voilà, la conférence League, c'est évidemment top pour le football italien et c'est évidemment historique là-dessus, il n'y a pas de doute, pour la Roma. Mais il y a tellement de choses à dire sur cette saison-là que voilà, on voit que Mourinho, quand même, est arrivé, est parvenu à retourner. Alors, je ne vais pas dire l'opinion publique parce que pas tout le monde ne va dans ce sens-là, mais on va dire que du côté de Rome, lui-même, en tout cas, si c'est quelque chose qu'on peut dire à nos auditeurs, il a toujours été intouchable. Des supporters, des médias, c'est un entraîneur qui n'a jamais été remis en cause cette saison. Il a toujours été vraiment soutenu par ses dirigeants, soutenu par la fameuse piazza de Rome et soutenu par les médias romains.
Et alors, pour aller sortir un petit peu du cadre Mourinho, enfin, un petit aparté d'abord, c'est que moi, ce que je disais à la radio, c'est que le processus est en marche. Ça ne veut pas dire qu'il a réussi. Je pense que c'est en marche. Il y a des marqueurs dans la saison qui me font penser que c'est en marche, qu'il y a une vraie influence sur le vestiaire, sur la personnalité, la mentalité, l'exigence, etc. Il y a ce qu'on voit évidemment sur le terrain, ce qu'on voit moins à l'extérieur. Mais tu sais, Guillaume, combien d'années on s'est amusé dans Calcio PP à compter les blessures à la Roma ?
Beaucoup.
Miraculeusement ou pas, cette saison, il y en a eu très très peu. Alors il y a eu le travail de Mourinho à l'intérieur du club, avec des nouvelles pratiques, des nouveaux protocoles mis en place. Il a aussi été voir ses dirigeants, les propriétaires, pour leur dire les terrains d'entraînement c'est pas possible, il faut intervenir. Ils ont refait une nouvelle fois, honnêtement sur les 10 dernières années ils ont dû être fait 15 fois les terrains d'entraînement, mais cette fois-ci visiblement ça marche plutôt bien. Donc tout ça, il a amené aussi plus d'exigences, etc. Il suffit aussi d'entendre parler les joueurs. Tu sais, parfois, nous, on a forcément une vision un peu externe, même si on se renseigne, qu'on sait des choses, etc. Mais quand tu as non pas un joueur, mais deux, mais trois, mais quatre, mais cinq, mais six, mais sept, qui viennent te dire « Ah, Mourinho nous apporte ça à l'instant T. Ah là, il nous a apporté ça, on a compris ça grâce à Mourinho. » C'est difficile ensuite d'arriver derrière et de dire « Bah non, Mourinho, il a rien fait à ce niveau-là. » Bah non, tous les joueurs en parlent. Donc forcément, il faut le établir que c'est un fait, là aussi. Après, sur le plan du jeu, on sait très bien que la Roma n'est pas allée chercher Mourinho pour le jeu. Elle est allée chercher pour le côté exigence, professionnalisme, construire une mentalité au sein du club qui doit lui permettre, dans les années futures, d'être un peu plus compétitif. Néanmoins, il y a aussi des bons matchs. Si on est tout à fait honnête,
oui,
moi, je pense au derby, au derby retour. Autant le derby aller était catastrophique, autant le derby retour était, au-delà même de la simple victoire 3-0, de marquer 3 buts, etc., vraiment maîtrisé. Les deux matchs contre l'Atalanta sont vraiment de qualité. Donc déjà, ça fait 3 victoires contre des, entre guillemets, gros. Chose qui était quand même pas acquis d'avance par rapport aux années précédentes. Et si je termine un peu sur les chiffres, Guillaume. 9e attaque de Serie A, avec 59 buts marqués. C'est la 3e équipe à avoir le plus tiré au but cette saison. Et alors ? On parlait tout à l'heure de la surperformance, on en a parlé dans l'épisode de Naples déjà, la surperformance devant le but des Napolitains. Avec, souviens-toi, les frappes d'Insigne, de Fabian Ruiz, de Zielinski, etc., etc., de l'essai de la surface. On a parlé de la surperformance de la Lazio cette saison, plus 18 entre les expected goals et le nombre de buts marqués. Figure-toi que la Roma, je suis en train de reprendre la ligne où je l'ai marqué, c'est la 4e plus mauvaise équipe en termes de finition sur le différentiel entre expected goals créés et buts marqués cette saison en Serie A. C'est la seule équipe du top 7 qui affiche un delta négatif. C'est-à-dire que la Roma s'est créée beaucoup plus d'occasions de qualité qu'elle n'a marqué de buts. Et ça, t'as aucune autre équipe du top 7 qui a un delta négatif. Ils sont tous dans le positif, c'est-à-dire qu'ils ont tous marqué plus de buts qu'est-ce qu'ils avaient produit. La seule équipe du top 7 qui réussit l'exploit d'avoir un différentiel négatif, c'est la Roma. Et le différentiel, il est négatif quand même de 5 buts.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quasiment 5 buts.
Johan, Roma Venise.
Par exemple.
Voilà, Roma Venise, c'est vraiment le symbole de ce que tu viens de dire. Ce match-là qui était lunaire, dont on a parlé dans le débrief de la dernière journée. Voilà. Alors, c'était parfois de la maladresse, parfois de la malchance. Mais c'est vrai que ce mélange-là combiné, la Roma n'a pas autant marqué qu'elle n'aurait dû. Et du coup, elle a probablement aussi raté beaucoup de points qui lui ont coûté, mine de rien, la place en Ligue des Champions. Parce que, tu sais, Johan, à un moment de la saison, quand même, et même en fin de saison, du côté de la Roma, on y a cru quand même avec les champions. La Juve était là. On sentait qu'elle pouvait se rapprocher. Et c'est vrai qu'à un moment.
C'est quoi l'écart minimum, Guillaume? C'est 3 points, 4 points? 4 points, peut-être?
Ouais, c'est par là. C'est pas plus. C'est pas plus. Et ça fait penser, tu sais, un peu à un moment. Alors, la Juve était revenue à 1 point de Naples. Mais. C'était un peu le même genre, tu sais, on sentait qu'ils pouvaient le faire et ils ne l'ont pas fait. Et la Roma y a cru à un moment, voilà, ça a été plus compliqué. Mais c'est vrai que la statistique, justement, que tu viens de dire, ça prouve quand même que la Roma a encore aussi des progrès à faire sur l'aspect de la finition, de la conclusion, même si tu as la malchance derrière, parce que les poteaux et les barres, on ne les comptait même plus, notamment contre Venise, où il y en a eu 3, hein. Il me semble. C'était 3 ou 4.
Non, 4.
4, voilà.
Je ne me souviens plus, il y en a 2 de Pellegrini sûr.
Ouais. Je crois que c'est 3 ou 4. Il me semble que moi, j'avais vu le match dans un restaurant italien.
J'arrive plus à me souvenir. Ouais.
Mais c'était bon. C'est un match qui résume un peu ta stat, tu vois. Ce match qui était, on pourrait dire lunaire, d'ailleurs, parce que c'est vraiment un match lunaire.
Et dernière stat, 6e défense avec 43 buts encaissés. Nette amélioration, mine de rien, par rapport à l'Air Fonseca, où la Roma avait encaissé 58 buts. Ouais. Lors de la saison 2020-21 et 51 en 2019-2020. Donc là, sur un an, il y a quand même 15 buts encaissés de moins. Donc ça, c'est clair, on le voit, hein, même s'ils encaissent encore trop de buts, on voit que ça s'est amélioré. Et tu sais, dernier élément sur le marqueur Mourinho et l'exigence qu'il a apporté, etc. Moi, il y a quelque chose que je trouve d'assez fort. Victoire au Torino 3-0 à 5 jours de la finale de Conference League. 4 jours de la finale de Conference League. C'est-à-dire que tu as un déplacement qui est quand même pas simple, Guillaume. Les matchs au Torino, c'est quand même pas facile à gérer parce que c'est une équipe très agressive qui te rentre dedans, etc.
L'Inter a freiné, Milan a freiné, tout le monde a freiné.
Le Torino avait en soi plus rien à jouer, pas d'objectif, etc. Mais tu vas t'imposer quand même 3-0 de manière très sérieuse un vendredi soir, alors que le mercredi soir, tu joues la finale de Conference League. Et ça, je trouve que ça montre aussi que le processus est bien en cours. Guillaume,
oui.
Ton joueur de la saison.
Écoute, mon joueur de la saison qui aurait pu d'ailleurs être ma recrue de la saison, mais du coup j'ai gardé ma recrue de la saison.
On a la même stratégie, si ça se trouve.
Tu m'as bien suivi. Est-ce que ton joueur de l'année est capitaine de la Roma?
Ah voilà. On a la même stratégie.
Oui, bah oui. Moi, j'ai évidemment mis Lorenzo Pellegrini parce que déjà il y a le rendement. Ouais. Avec 16 buts et 6 passes D, et c'est pas rien, surtout quand tu es à la Roma. Il faut rappeler qu'il est romain de naissance, qu'il est capitaine de la Roma, et on sait ce que ça inculque. C'est quand même, Johan, un joueur, mine de rien, qui arrive, je trouve, à garder ses nerfs, tu vois, toujours à rester. Il peut aller parler à l'arbitre, ça peut, mais c'est le capitaine, et il le fait toujours de manière, je trouve, contrairement à Mancini.
J'étais sûr que t'allais. En fait, j'attendais que tu finisses pour te lancer sur le sujet.
C'est vrai que je t'avoue que c'est un peu. J'aimerais bien que Mancini se calme un peu dans ses remontrances, on dira, mais je trouve Pellegrini plus sobre et plus classe, entre guillemets, dans ses requêtes, on va dire, envers l'arbitre. Mais au-delà de ça, voilà, pour moi, voir, tu vois, un joueur de la Roma, capitaine, Roma de naissance, lever la Conference League, ça m'a fait quand même quelque chose, et je pense que ça fait quelque chose aussi à Totti, qui était dans les tribunes à Tirana. Et surtout, c'est un joueur techniquement qui est vraiment le leader déjà de cette équipe-là, qui probablement sera aussi leader de l'équipe d'Italie, hein, parce qu'on a besoin, Johan, sache-le. On a besoin d'un leader technique en national. Et surtout, c'est coup franc, Johan. Il a, voilà, moi j'ai dans les yeux vraiment ce coup franc à Cagliari. Alors il y en a eu d'autres, hein. Mais le coup franc à Cagliari, dans ce moment-là, c'est parce qu'en plus la Roma était menée, il permet d'égaliser et il restait 10 minutes de jeu. Il prend le ballon, il le pose et il met un coup franc incroyable. Il a mis dans le derby qui était encore un peu plus loin, celui du derby, il me semble. Mais voilà, pour ce que représente Pellegrini et pour la saison qu'il a fait et qu'il est parvenu à faire avec un trophée au bout, voilà, moi je trouve ça vraiment incroyable. Pour moi, c'est vraiment impressionnant.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi qui suis très sensible depuis tout jeune au coup franc, me demande pas pourquoi, c'est
irrationnel.
Ouais, c'est un amour des coups francs assez dingue, ce qui explique aussi pourquoi j'aime beaucoup le numéro 10, parce que c'était souvent les numéros 10 qui étaient chargés de tirer les coups francs. Il en a mis 3 cette saison en championnat. En plus, bon, Cagliari, tu peux te dire, alors c'est un but important, hein, mais tu peux te dire, bon, équipe reléguée, voilà. Mais il met quand même un coup franc dans le derby et un coup franc contre la Juve. Ce qui est fort, c'est qu'à chaque fois, c'est pleine lucarne. Et pleine lucarne. Ce qui, parfois, bah, fait que le ballon, au lieu d'être en dessous de la barre, il est sur la barre. Et contre Venise, il y en a eu 2 quand même sur la barre, 2 coups francs. Donc ça, c'est le côté un peu, je sais pas, esthétique, goût personnel, etc. C'est pas ça qui m'a fait voter pour lui, mais comme tu en as parlé, j'ai embrayé un petit peu dessus. Il y a le côté... tu vois, je pense que c'est un des joueurs qui a le plus progressé sur l'exigence. Pellegrini avait tendance, et ça lui était beaucoup reproché à Rome, parce qu'à Rome, on est encore plus dur avec les Romains qu'avec les autres joueurs. Il suffit de voir ce qui s'est passé avec Florenzi. On lui reprochait parfois de se laisser vivre un peu parfois sur le terrain, de pas être assez exigeant, tu sais, quand l'équipe coulait, bah il coulait avec. Alors que par exemple un joueur comme Totti, quand l'équipe coulait, lui il sortait la tête de l'équipe de l'eau, tu vois. Et on lui reprochait un peu ça, et c'est un peu dégueulasse aussi pour Pellegrini d'être sans arrêt comparé à Totti, parce que c'est pas possible en fait. Ouais. Et atteindre le niveau de Totti, il y en a pas 50 quoi. Donc voilà. En ça c'est un peu difficile pour lui. Mais je trouve qu'il a progressé, je trouve que il fait beaucoup plus de courses défensives également. Est-ce que tu as en mémoire, on parlait de ce match surréaliste contre Venise. Est-ce que tu as en mémoire la, je sais pas, on doit jouer la 94e ou 95e minute.
Oh, incroyable.
La contre-attaque de Venise où ils partent en 2 contre 1.
Mais c'est un but assuré.
C'est un but assuré et la course de, je sais pas, 70 mètres de Pellegrini. Incroyable. Où il part avec quoi, 5-10 mètres de retard sur les joueurs de Venise.
C'est l'une des images de la saison.
Et voilà, le sauvetage qu'il fait, alors que en soi, tu prends le but, enfin, si ça aurait été compliqué parce que tu jouais la 6e place, etc. Mais il faut le faire, cet effort-là. Et je trouve que ça marche, ça montre bien, pardon, les progrès dans l'attitude de Pellegrini, au-delà même de le côté affectif. Un Romain qui soulève le trophée comme toi, ça fait évidemment quelque chose, etc.
Et pour avoir lu beaucoup d'interviews de Pellegrini, hein, pour finir cette saison, notamment un quotidien anglais dont je n'ai plus le nom, il a dit que Mourinho, justement, axait beaucoup là-dessus, la mentalité, et qu'il avait beaucoup appris cette saison avec lui. Donc, ça prouve aussi et ça rejoint ce que tu dis.
Et dernière parole, d'ailleurs, Guillaume, après la finale de Conference League, il y a eu 2 interviews de Pellegrini. La première, c'était tout de suite, tu sais, sur le terrain, pendant qu'il y avait le début des festivités. Et là, ça devait être Sky, je crois.
Si je dis qui avait les droits. Qui avait les droits.
C'est ça. Et il y a eu après-match, et c'était encore Sky, en zone mixte, devant les pancartes publicitaires, pour faire simple. Les 2 fois, un des premiers trucs qu'il a dit, alors évidemment, je suis content, voilà, en tant que Romain, blablabla, blablabla. Un des premiers trucs qu'il a dit, c'est ce match-là, ça doit pas être un match en lui-même, un match en soi. Ça doit être un point de départ. Ce match doit nous montre les efforts, l'exigence qu'on doit avoir au quotidien pour revivre ce genre de truc. Il dit, il faut pas que ce soit un match en soi. Il faut que on fasse tout pour revivre ce genre de moment. Et je me suis dit, c'est une belle dose de maturité quand même. Alors qu'au final, t'es comme un dingue parce que t'as gagné.
Euphorique quand même.
Voilà, c'est ça. Et ben lui, la lucidité à ce moment-là. Pour rappeler tout le monde à l'ordre, parce que c'est un message aussi pour ses coéquipiers, pour la presse, pour l'environnement, pour les tifosi. Ok les gars, fêtons le titre ce soir, mais attention, hein, on va le fêter aussi demain, puis après-demain, puis après-après-demain, parce que voilà. Mais attention, dès que Le raduno, comment, le, je sais pas le mot en.
La reprise.
Ouais,
la
voilà,
reprise
le.
De la saison. Hein.
Voilà, dès qu'on va se regrouper pour le début de la saison prochaine, on repart sur le même état d'esprit. Et ça, je trouve ça bien.
Pas mieux.
Guillaume, ta recrue de la saison, et notre recrue, puisque.
Bah, notre recrue, voilà. Évidemment. Bah, écoute, c'est Tammy Abraham. Saison incroyable. Pour une première à Rome, honnêtement, c'est bluffant. Moi, j'appréciais déjà le joueur à Chelsea, mais alors, je vais être honnête, je ne m'attendais pas à une saison comme ça. Il a marqué 27 buts cette saison. Il a délivré 5 passes décisives. Il était meilleur buteur de la Conference League. Il a fait une saison pleine, Johan, parce qu'il a fait quand même 53 matchs. Et c'est pas rien. Et surtout, au-delà de toutes les qualités qu'on a pu voir dans la finition, dans l'appel, dans la palette qu'il peut avoir, que ce soit le pivot, que ce soit la profondeur, la vitesse, le dribble. On avait déjà parlé, je me souviens avec toi, dans le podcast Catcho Pépé, mais le lien qui a été créé entre Rome et Abraham cette saison, vraiment, je trouve ça assez fou, parce que ça a été comme un coup de foudre, j'ai l'impression, entre les deux, entre une ville qui, on le sait, est très émotionnelle, et un joueur qui s'est tout de suite attaché et fondu dans la réalité de Rome, qui a compris là où il atterrissait, et vraiment, on voit que ça lui tient à cœur. Il a fait beaucoup d'interviews, dont une récemment où il a dit texto, je suis tombé amoureux de ce club-là, et on a vu vraiment que c'est devenu l'idole de tout le monde, un des chouchous de la Curva Sud, et c'est vraiment ça, au-delà du rendement qu'il a pu avoir, parce que évidemment si t'as pas le rendement tu peux devenir le chouchou, ça changera pas grand chose quand même à l'issue de l'histoire. Là cette saison il a réussi à combiner un rendement constant et décisif, notamment pour la quête de la Conference League, et en plus en dehors du terrain, et je me souviens quand il marque dans le derby notamment, il va défier, alors c'est pas grand chose mais pour les Romains c'est important, notamment pour la partie giallorossa, il va défier entre guillemets la couverture nord de la Lazio en la regardant. Après, il repart, il a fêté sous la soude. Enfin, il y a vraiment un lien et une symbiose qui s'est créée entre la Roma et Abraham que je trouve surprenante, mais que je valide évidemment, parce que Abraham est un joueur excellent. Et quand on voit la saison qu'il fait, vraiment, moi, pour être tout à fait honnête, je ne m'attendais pas du tout à un tel rendement pour sa première saison à Rome et en Serie A.
Il est validé par la Street et par Guillaume Lapacini.
Exactement.
Non,
mais
je vais
pas crocher ou pas.
Bah oui, évidemment. Alors je vais pas en rajouter beaucoup parce que je trouve que tu as très bien fait le tour, et notamment sur le côté émotionnel, personnalité, etc. Il faut pas oublier qu'il arrive avec l'étiquette aussi du joueur le plus cher de l'histoire de la Roma, et que ça, il y a des joueurs que ça paralyse, pas lui.
Ouais, c'était 40 millions quand même. Hein,
plus 5 rappeler. De bonus.
Ouais, c'était 45. Ouais.
Tu as parlé de son nombre de buts. Je vais juste souligner. Pour clore, les buts importants qu'il a marqués, le retour contre Leicester en demi-finale de Conference League, le but de la qualif en 8e contre le Vitesse Arnhem, le doublé contre l'Atalanta à l'aller, le but au retour contre l'Atalanta, il marque aussi contre Milan, contre la Juve, un doublé contre la Lazio dans le derby. Voilà, c'est aussi un homme des matchs importants, et c'est ce dont avait besoin la Roma après l'ère Dzeko qui s'était assez mal terminée. De retrouver très rapidement un enthousiasme exagéré pour un numéro 9. Mon cher Guillaume, on termine par la note à la saison de la Roma.
Sans la victoire en Conference League.
Ah, faisons les deux.
Eh bien, écoute, sans la victoire en Conference League, ou sans la finale aussi, on va dire sans la finale.
Ouais.
Sans la finale de Conference League, j'aurais mis la même note que Lazio, j'aurais mis 6.
Je te coupe juste un instant.
Ouais.
Moi j'aurais été plus dur, j'aurais mis 5,5.
Bah voilà.
Parce que ton objectif, contrairement à la Lazio,
c'est vrai.
Ton objectif affirmé était le top 4.
C'est vrai. Et surtout qu'il y avait eu des dépenses aussi plus conséquentes. Et avec l'éditeur de la conférence, je mets un 7 parce que c'est le premier trophée européen pour la Serie A depuis 12 ans. C'est un trophée historique pour la Roma. Mine de rien, c'est un gros parcours. C'est 12 matchs hein, quand même. Si c'est 12 matchs, oui c'est 12 matchs, donc c'est beaucoup, il a fallu être au rendez-vous tout le temps, sauf en phase de poule, ça a été plus compliqué, notamment à Bordeaux, mais voilà, avec cette victoire…
C'est 15 matchs Guillaume, je suis en train de réfléchir,
c'est 15 matchs,
parce
voilà.
Qu'ils ont eu deux matchs préliminaires contre Trabzon,
ouais.
Donc 2 plus Il y en a 6 en groupe, 8, 10 avec les 8e, 12 avec le quart. Ouais, c'est ça, 14-15, c'est ça.
Eh bien, écoute, voilà. Bon, pour moi, avec cette victoire-là qui restera quand même dans l'histoire du club et qui reste un trophée européen pour la Serie A, pour moi, ça mérite un 7. Voilà.
J'hésitais entre le 7 et 7,5. Tu sais, entre le 7, de se dire, est-ce que c'est assez parce que c'est le premier trophée de ton histoire, quand même, européen. Premier trophée européen de ton histoire. Et le 7,5 en se disant, est-ce que c'est pas trop exagéré Eh ben, tu sais quoi? J'hésitais entre le 7,5 et le 8 pour l'Inter, c'est ça, de mémoire?
Oui,
j'ai mis 7,75.
Exactement.
Et ben, j'hésite entre 7 et 7,5. Je vais mettre 7,25 pour la saison de la Roma. Je triche. Voilà, c'est comme
ah, et
ça.
On t'autorise, parce que tu sais que c'est pas normalement, on n'a pas le droit.
Ah, voilà. Je sais.
On te l'autorise.
Mais en fait, je me dis que 7, c'est pas assez. Et que 7,5, ça peut limite être trop. Tu
c'est
vois,
vrai.
Par rapport non, mais... à quand même finir 6e de Serie A.
Il faut pas oublier quand même voilà, tout ce qui s'est passé aussi en Serie A et pas tomber tu vois, dans le piège
exactement.
Que voudrait nous tendre Mourinho. Parce que voilà, on vient de le dire, tout n'a pas été parfait. Mais on va rester quand même, Johan, sur cette bonne note, même pour notre championnat à nous, qui est
bien
la Serie A, de cette victoire européenne.
Ça fait du bien. On s'autorise pendant une année à être un peu moins chambré, tu vois. Ah ouais,
exactement.
Mais l'Italie, ça fait 12 ans, le dernier trophée. Ah, allez. Allez, là, au
mais
moins,
mais
on passe plus sur
on,
ça.
On sera toujours pas la Coupe du Monde, quand même.
Ah oui, ça change pas, par contre. Malheureusement,
voilà.
On peut pas tout avoir, mon cher Guillaume. Hein. Malheureusement. Voilà qui boucle notre épisode consacré à la Roma. Je fais vite, comme d'habitude. Pensez aux 5 étoiles. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir le Twitter de Guillaume qui va vous
aussi.
Demander de votre avis sur la note, la meilleure recrue et le meilleur joueur. Allez commenter ça, commenter, partager l'épisode, etc. Et puis nous, on va revenir pour boucler ce bilan de la saison 2021-2022 du football italien, du championnat italien, avec un dernier épisode. On l'a présenté depuis le début, Guillaume, comme un pêle-mêle et un fourre-tout. On sera clairement dedans.
Hein, exactement. On va faire vraiment tout le reste de ce qui nous a marqué cette saison, des clubs qui nous ont déçus, des clubs qui ont surperformé, de la course à la descente aussi, parce que ça a été quand même un sacré spectacle jusqu'au bout.
Jusqu'à la dernière minute.
Ouais. Donc il y a vraiment des choses à dire. Mais oui, ce sera, on va dire, une espèce de fourre-tout. Voilà, où on va vraiment parler de tous les clubs.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute et on se dit à très vite.